awambila lainike au fe akam.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du jeudi 3 novembre 2022. Avec vous, Eric Manilakidza, voici d'abord le sommaire. En Guinée, la junte ordonne des poursuites pour corruption contre l'ex-président Condé et plusieurs anciens ministres. En RDC, le M23 est non loin de Goma qui, encore une fois, vit dans la crainte et l'incertitude. En Israël, Netanyahou fait son retour au pouvoir après les législatives de mardi. Le pape François est à Bahreïn pour une visite de 4 jours, la première d'un souverain pontife dans le petit royaume musulman du Golfe. Dans la page économie, la circulation est revenue à la normale à Tunis, paralysée hier par une grève des employés des tramways, autobus et trains de banlieue. En sport, fortune diverse pour les équipes qui ont pris part hier au match aller de la Coupe CAF, résultats et réactions à venir. En Guinée, la junte a ordonné d'engager des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé et plus de 180 cadres et anciens ministres pour des faits présumés de corruption. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Dans sa lettre publique adressée aux procureurs généraux, le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, vise nommément l'ancien chef de l'État Alpha Condé et certains de ses cadres lorsqu'il était au pouvoir de 2010 à 2021. 188 noms sont sur la liste, dont l'ancien premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense proche d'Alpha Condé, Mamadi Camara qui était à l'économie et une quarantaine d'anciens ministres. Certains sont déjà en prison. Leurs comptes sont gelés, indique le document. Ils sont poursuivis pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, faux et usage de faux, détournement de deniers publics et complicité. En mai, des poursuites ont été engagées contre Alpha Condé pour des faits présumés d'assassinat, actes de torture, enlèvement et viol lors de la répression des manifestations contre son troisième mandat.
L'archevêque de N'Djamena a dénoncé la violence meurtrière et la barbarie de la répression des manifestations qui ont fait une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés il y a 2 semaines au Tchad. Reçu en audience hier soir par le président Mahamat Idriss Déby Itno avec 2 autres représentants religieux, musulmans et protestants, Monseigneur Djitangar Gotebe Edmond, archevêque de N'Djamena, s'est dit choqué par les images insoutenables des événements du 20 octobre. L'archevêque a demandé de mettre fin à la chasse à l'homme dont sont victimes quelques opposants, de libérer ceux qui sont détenus et déportés et de relancer un dialogue avec des partis politiques et les associations de la société civile. Le gouvernement a accusé l'opposition d'avoir fomenté une tentative de coup d'État par une insurrection armée. La haute autorité de la communication malienne a décidé de suspendre jeudi pour 2 semaines l'une des principales chaînes d'information du pays après des propos critiques contre la junte par l'un de ses journalistes vedettes. L'instance argue dans sa décision que les griefs reprochés à Djoliba TV News constituent des manquements et violations graves et répétées aux dispositions du code de déontologie du journalisme au Mali. Dans l'est de la RDC, les rebelles du M23 se rapprochent de la ville de Goma. Les habitants de la capitale du Nord Kivu vivent dans l'incertitude et la crainte, redoutant une nouvelle occupation de la ville. Les détails avec Nanit Talani.
Certains habitants ont déjà été séparés de leur famille par les affrontements entre le M23 et les FRDC. Des enfants ne peuvent pas aller à l'école. L'approvisionnement de la ville est devenu plus compliqué depuis que le M23 a étendu son emprise dans le territoire de Rutshuru. Les prix des denrées de première nécessité montent en flèche et la population redoute les violences comme il y a 10 ans. Le M23 avait pris le contrôle de Goma le 20 novembre 2012 et avait occupé la ville pendant 10 jours avant de se retirer après une promesse de dialogue avec Kinshasa. Le M23 a repris les armes en reprochant aux autorités congolaises de ne pas respecter les accords de Nairobi. Kinshasa, qui vient d'expulser l'ambassadeur rwandais, accuse Kigali de soutenir cette rébellion, ce que dément le Rwanda.
Trois membres d'un groupe armé centrafricain vont faire appel de leur condamnation allant de 20 ans de réclusion à la perpétuité pour crimes contre l'humanité. Issa Saleh Ado, Ousmane Youba et Tahiri Marmat ont été reconnus coupables lundi par la Cour pénale spéciale pour leur rôle dans le massacre de 46 civils dans les villages de Koundjili et Lemouna, c'est dans le nord-ouest du pays. C'était le 21 mai 2019. Le premier a été condamné à la perpétuité et les deux autres à 20 ans de réclusion pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. L'accord de cessation des hostilités conclu entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré est une étape encourageante, a estimé jeudi le chef des droits de l'homme de l'ONU, demandant des réparations pour les victimes. Le haut commissaire aux droits de l'homme a souligné dans un communiqué que l'accès à des voies de recours efficaces et des réparations adéquates seront essentielles pour les victimes ainsi que pour favoriser la réconciliation et l'apaisement national. Près de 8 millions de personnes au Soudan du Sud, soit les deux tiers de la population, sont menacées d'insécurité alimentaire et de famine, a averti l'ONU dans un rapport publié jeudi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Benjamin Netanyahu et ses alliés de droite ont remporté la majorité des sièges au Parlement à l'issue des législatives du 1er novembre, a annoncé jeudi la commission électorale israélienne. Avec 32 sièges pour le Likoud de l'ancien Premier ministre Netanyahu, 18 pour les partis ultra-orthodoxes et 14 pour une alliance d'extrême droite, le bloc de droite a remporté 64 sièges d'après la commission. En face, le bloc du Premier ministre sortant Yair Lapid, centriste, a remporté 51 sièges. Le pape François est arrivé à Bahreïn pour une visite de 4 jours, en grande partie consacrée au dialogue interreligieux. C'est la première visite d'un souverain pontife dans le petit royaume musulman du Golfe. Mohamedou Oufa.
Peu après l'atterrissage de son avion à 13h40 GMT à l'aéroport de la ville d'Awali, le pape a prononcé un discours devant les autorités et le corps diplomatique au palais d'Al-Sakir. Il a appelé à ce que les droits humains fondamentaux ne soient pas violés mais promus sur fond de critiques d'ONG sur les discriminations du pays à l'égard des chiites. Le respect, la tolérance et la liberté religieuse reconnues par la constitution du pays doivent être constamment mises en pratique afin qu'il n'y ait pas de discrimination et que les droits humains fondamentaux ne soient pas violés mais promus, a déclaré le souverain pontife. À 3 semaines de l'ouverture du mondial de football au Qatar voisin, pointé du doigt notamment pour le sort de ses travailleurs étrangers, le pape a appelé à ce que soient partout garanties des conditions de travail sûres et dignes de l'homme, dénonçant le travail déshumanisant qui représente une atteinte à la dignité humaine dans les sociétés contemporaines. Le pape a exhorté Bahreïn à être un phare dans la promotion dans toute la région des droits et des conditions équitables et meilleures pour les travailleurs, les femmes et les jeunes. Selon lui, il est aussi nécessaire de garantir respect et attention à ceux qui se sentent les plus en marge de la société, comme les émigrés et les détenus.
Le groupe des pays du G7 est déterminé à empêcher la Russie d'affamer et de faire mourir de froid les Ukrainiens cet hiver et va examiner les moyens de renforcer son soutien à Kiev lors d'une réunion de 2 jours en Allemagne. L'organisation du soutien à l'Ukraine figure en haut de l'agenda de cette réunion avec l'idée de lancer un nouveau message de fermeté à la Russie qui mène l'offensive contre Kiev depuis le 24 février. Une 100aine de soldats russes et ukrainiens prisonniers ont été échangés dans une nouvelle opération entre Kiev et Moscou, a-t-on appris auprès des deux pays. Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a affirmé plus tard que les soldats libérés seront ramenés à Moscou, notamment pour des examens médicaux. Kiev a de son côté confirmé l'échange de prisonniers par la voix du chef de cabinet de la présidence ukrainienne sur Telegram. Les exportations alimentaires ukrainiennes ont atteint jeudi 10 millions de tonnes grâce à l'initiative de la Mer Noire, s'est réjoui le secrétaire général de l'ONU, appelant à renouveler cet accord céréalier qui réduit les risques de faim dans le monde. Les chefs des agences de l'ONU pour les droits de l'homme et les réfugiés ont appelé jeudi la communauté internationale à s'abstenir de renvoyer les Haïtiens dans leur pays en proie à une crise humanitaire et sécuritaire extrême. L'autrice française Brigitte Giraud a remporté jeudi le Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires francophones, avec « Vivre vite » aux éditions Flammarion.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
En Tunisie, les employés des tramways, autobus et trains de banlieue ont repris le travail à Tunis, qui a été paralysé hier par une grève. Les employés ont débrayé à cause d'un retard de plus de 10 jours dans le paiement des salaires et un mauvais état des infrastructures de transport. Le ministère des Transports a confirmé le paiement des arriérés et des avantages dus aux salariés. La Banque africaine de développement vient de déployer le programme des zones spéciales de transformation agro-industrielle au Nigeria. La phase 1 est mise en œuvre pour 5 ans dans cet état. Il englobe des produits agricoles, l'élevage bovin, la volaille et la pêche. Le projet permettra le développement d'infrastructures pour 23 centres de transformation agro-industrielle.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo, avec vous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Les rencontres allées du retour de cadrage de la Coupe de la CAF ont été disputées hier mercredi.
Oui, le Djoliba AC du Mali a fait un match nul 0-0 face au Marocain de l'AS Far Rabat au stade du 26 mars de Bamako. Pour le coach du Djoliba, son club n'a pas dit son dernier mot. Tout reste à jouer au match retour.
Le retour, c'est sûr, ça va être difficile, car jouer une équipe marocaine à ce niveau, c'est jamais facile, mais je pense que tout reste ouvert. On a notre chance aussi parce qu'on n'a pas pris de but. Maintenant, il faut se remobiliser, dire aux jeunes que c'est encore possible. On va travailler dans ce sens et essayer d'aller au moins marquer un but, au moins ne pas perdre, quoi, avoir un match nul avec un score. Bon, ben, c'est le football, ça reste toujours ouvert.
Sekou Sek Dibako, entraîneur du Djoliba AC du Mali. Fernando Dacruz, coach de l'AS Far du Maroc, a, pour sa part, indiqué que son objectif reste et demeure la qualification.
On a fait que la moitié du travail. On n'a pas le sentiment que ça va être facile au match retour. On s'attend à un match compliqué. On a un grand respect pour Djoliba, mais on va tout faire aussi pour se qualifier parce que c'est notre objectif.
Fernando Dacruz, coach de l'AS Far du Maroc. Des propos recueillis par notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré. Dans les autres rencontres, l'autre club marocain, la Renaissance sportive de Berkane, a perdu 1-0 en Tunisie face à Monastir grâce à un doublé de Ouattara Moutalabou. Les Togolais de Lasco de Kara ont battu à domicile les Tunisiens du CS Sfaxien 2-1. Les Burkinabés du Racing Club du Kadiogo, qui ont reçu les Congolais de Saint-Éloi-Loupopo au stade de l'Amitié de Cotonou, sont tombés 0-1, 2-0 pour le TP Mazembe qui recevait les Sud-Africains du Royal EMFC. Même score en faveur de DC Motoma Pembe devant Flambeau du Centre. 2-0 également pour l'ASEC d'Abidjan dans le derby fracticide face au SC Gagnois. La bonne opération est à mettre à l'actif des Nigériens du Plateau United qui se sont imposés à domicile 4-1 face à Al Akhdar. Les matchs retour se jouent la semaine prochaine.
Ici en NBA, Yacouba, Milwaukee poursuit son sans-faute.
Oui, les Bucks de Gianni Antetokounmpo, auteur de 32 points et 12 rebonds, ont fait une septième victime en autant de rencontres, s'imposant 116-91 face à Détroit. Ce large succès permet à Milwaukee de conserver seul la tête en résistant à des Cavaliers au galop qui ont validé un septième succès d'affilée au bout du suspense face aux Boston Celtics. 114-113 après prolongation. Dans la conférence Ouest, l'heure n'est pas encore aux grandes célébrations pour les Lakers, mais la franchise de Los Angeles a enregistré un deuxième succès contre la Nouvelle-Orléans, 120-117 après prolongation. La partie a été presque aussi serrée à Portland, où les Blazers se sont inclinés 111-106 face à Memphis. À Dallas, le Slovène Luka Doncic a poursuivi sa série en inscrivant pour la septième fois de la saison 30 points ou plus, 33 en l'occurrence, assorti de 11 passes décisives lors de la victoire des Mavericks face au Utah Jazz, 103-100.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manilakiza. Place au dossier du jour. La rébellion du M23 est à quelques dizaines de kilomètres de Goma, la grande ville de l'est du pays. Eddy Issango a joint à Goma le professeur Dadi Salé.
Il y a effectivement psychose parce qu'il y a 3 jours plutôt, Goma a été menacée à moins de 20 kilomètres. Et que naturellement, les enfants ne pouvaient même plus aller à l'école et que les marchés ne peuvent plus convenablement. Toutes les activités étaient bloquées et que les gens commençaient à penser que c'était passé. Mais ces 3 jours, il n'y a pas eu d'affrontement aux alentours de Goma, même si on a brûlé quand même un véhicule de la Monusco à 4 km de Goma. Ça continue de plus en plus. 3 jours, pas d'affrontement. Sur le front, sérieusement, ça fait que quand même, la population commence à respirer un peu. Le ministre de la Défense et de la République démocratique du Congo est arrivé aujourd'hui à Goma avec une grande délégation. Et c'est que ça calme encore un peu les esprits parce que les avions n'atterrissaient plus à Goma. Ce qui fait que les gens se disent qu'on est déjà fait à Kinshasa. Il y a beaucoup de réfugiés, plutôt de déplacés. L'aspect humanitaire est très important. Parce que c'est vrai, il y a quelques efforts de la part du gouvernement et de l'humanitaire, mais j'ai pu témoigner moi-même que la situation est grave et que les gens, hier, il y a une dame qui est décédée, des familles, il faut bien comprendre, quand on décède parce qu'on n'a pas eu quoi manger, parce qu'on était on est déplacé, c'est très grave. Donc il y a beaucoup de cas de malnutrition, un peu dans le pic.
Qu'est-ce qu'a apporté alors l'annonce par le Kenya de l'envoi très prochainement des troupes de son pays sur cette partie de la RDC?
Comme c'est la mission de l'Eastern African Community, certaines personnes pensent que c'est une bonne chose rapidement que le Kenya puisse s'engager et venir, qui veut faire transformer un peu la situation de la guerre. Et on espère qu'on doit être une vraie force pour combattre la rébellion. C'est ça au fond, ça tombe comme. La deuxième tendance, c'est que certaines personnes pensent effectivement que dans les pays, dans des forces étrangères, ne peuvent pas facilement quitter la République démocratique du Congo par rapport à ce qu'on a vécu, parce que l'Ouganda est déjà là, et que nous avons la Monusco, avec plus de 50 nations qui sont là. Donc ça fait des deux.
Mais quelle est la situation sur le plan sécuritaire dans la ville même de Goma? La présence militaire doit être nombreuse ou elle n'est pas présente?
Oui, la présence militaire est là, mais elle n'est pas aussi nombreuse que ça, parce que toutes nos informations et vérifiées prouvent que c'est plutôt vers Kanyabayonga que beaucoup de militaires congolais sont partis.
C'était le professeur Dey Salé, habitant à Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Le 4 novembre, cela fera 2 ans que la guerre a éclaté dans la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie. La trêve annoncée hier à l'issue de pourparlers organisés par l'Union africaine à Pretoria a fait naître l'espoir d'une cessation des hostilités. Mohamed Youssouf a fait le point depuis Nairobi. Le récit avec Lionel Runanira Gahima.
Le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré ont accepté de mettre fin à 2 ans de conflit après une semaine de pourparlers à Pretoria. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, médiateur de l'Union africaine, estime que cet accord marque une nouvelle aube pour l'Éthiopie.
In the Ethiopian conflict, have formally agreed to the cessation of hostilities.
Les deux parties ont convenu d'une cessation des hostilités, un désarmement systématique, ordonné et sans heurts, le rétablissement de l'ordre, la restauration des services publics, de l'accès sans entrave à l'aide humanitaire, la protection des civils, en particulier les femmes, les enfants et d'autres groupes vulnérables.
L'accord prévoit que les rebelles du Tigré déposent les armes en échange de leur réintégration et du retour de l'armée nationale dans la région. Les deux parties ont aussi accepté de mettre fin aux discours de haine qui ont alimenté le conflit. L'accord est considéré comme une percée majeure. Olusegun Obasanjo reste confiant de son application.
L'accord aussi prend soin of assurance of security for all concerned within.
L'accord prend aussi en charge l'assurance de la sécurité pour toutes les personnes concernées à l'intérieur et à l'extérieur de l'Éthiopie. Le suivi, la supervision et la vérification de la mise en œuvre seront effectués par le panel de haut niveau de l'Union africaine.
Le porte-parole des rebelles du Tigré, Getachew Reda, a mis en garde les fauteurs de troubles qui tenteraient de saboter l'accord de paix. S'exprimant lors d'une conférence de presse en ligne, Solomon Mezgebou, président du Forum des droits de l'homme du Tigré, a déclaré que cette fois-ci, le premier ministre Abiy Ahmed sera tenu de respecter l'accord.
Malheureusement, Abiy est déterminé et sa principale motivation à cette négociation, comme il l'a démontré ces deux dernières années, maintenant parce que c'est un processus formel et très structuré. Des personnes de poids sont impliquées. Donc, c'est un très bon début, même si je n'ai pas de grands espoirs. Mais c'est un très bon début.
Dans une déclaration, Abiy Ahmed a souligné que l'accord est monumental, affirmant que son gouvernement s'engage à le mettre en œuvre. Abdullahi Halake de Refugees International estime que l'influence de l'Érythrée dans ce conflit ne peut être écartée.
I think,
Je pense que c'est probablement l'une des faiblesses de ce processus de paix, qu'Abiy soit pratiquement redevable à Asmara. Son armée est presque décimée. Il n'a pas une tonne de force, à part la conscription et la milice financière. Nous sommes vraiment coincés avec Asmara dans un avenir prévisible.
Les forces éthiopiennes et les rebelles du Tigré avaient conclu un accord similaire un peu plus tôt cette année, mais les deux parties ont repris les hostilités en août, rompant un cessez-le-feu de près de 5 mois.
L'ex-commandant libérien du mouvement Uni de Libération pour la Démocratie ou LUMO, Kunta Kamara, a été condamné mercredi à la prison à vie par la Cour d'assises de Paris pour des exactions commises pendant la première guerre civile au Libéria. Nani Tetalani a joint depuis New York Elise Kepler, directrice adjointe d'Amnesty International.
Cette condamnation est une étape très importante pour les victimes au Libéria. Il y a beaucoup d'années, il n'y a presque rien de procès pour les crimes les plus graves au Libéria. Libéria n'a rien fait pour la justice dans le pays et il n'y a que peut-être 2 ou 3 condamnations par les pays comme les États-Unis, la France et la Suisse. Donc c'est un grand espoir vraiment pour les victimes et les communautés qui sont plus affectées par les crimes d'avoir un peu de justice. C'est la première fois d'avoir une condamnation sur les crimes contre l'humanité qui ont été commis pendant la première guerre civile au Libéria. Donc, c'est vraiment important pour Libéria.
Quel est le message que cette condamnation peut envoyer aux autres criminels de guerre?
Les autres criminels au Libéria ou n'importe où savent que c'est possible d'avoir la justice, même si c'est 20 ans après, 25 ans après. Donc c'est possible, on peut savoir que si on commet des crimes les plus graves, on peut avoir la justice enfin. C'est un grand signal que les crimes ne sont pas acceptés, tolérés.
Pourquoi le Libéria lui-même a du mal à juger les criminels de guerre?
Ça, c'est la question la plus importante et j'espère que vous demandez ça au gouvernement. Mais on ne sait pas exactement parce que le président Weah a dit qu'il peut soutenir la justice et avant qu'il soit devenu le président, il a dit que la justice est importante. Mais après, c'est plus compliqué. Il est silent. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Nous voyons qu'il y a des gens qui sont impliqués dans les crimes comme Prince Johnson, qui ont toujours les positions de pouvoir, les positions comme législateurs, les gens qui font les lois. Et il y a opposition des gens comme ça. Donc ça, c'est une raison. Mais c'est clair que les victimes, les sociétés civiles, les chefs religieux, tout le monde vraiment au pays, ils veulent avoir la justice, ils veulent combattre l'impunité.
Y a-t-il déjà eu d'autres condamnations liées aux guerres civiles au Libéria?
Oui, il y a deux autres condamnations que je connais pour Liberia. C'est la condamnation de Charles Taki Taylor Jr. Ça, c'est le fils du ancien président Charles Taylor. Et il était devant la justice aux États-Unis pour la torture qui a été commise dans la deuxième guerre civile au Liberia. Aussi, il y avait l'affaire de Kozaya, Alio Kozaya, en Suisse. Il y a une année. Et enfin, Kozaya était un témoin dans l'affaire de Kunti Kamara.
Élise Kepler, directrice adjointe d'Amnesty International.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Américains sont appelés mardi prochain à renouveler l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Une série de postes de gouverneurs et d'élus locaux sont également en jeu. Certains candidats disent qu'ils ne vont pas accepter les résultats et le président Joe Biden parle d'une démocratie en danger. Rosine Munezero s'est entretenue avec Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Je partage ce point de vue parce qu'en 2020, après avoir perdu l'élection, l'ancien président Trump a dit « Non, j'ai pas perdu l'élection, c'était la fraude ». Sans donner le moindre preuve, il est allé devant les tribunaux avec certains éléments de preuve et c'était tout à fait rejeté. Et après avoir été refusé par les tribunaux, il a fait une insurrection, il a fait la guerre. Il a ramassé quelques milliers de gens. Ils ont attaqué le Capitole le 6 janvier, au moment où le Congrès comptait les grands électeurs pour décider qui était élu. Et depuis, il y a beaucoup de gens qui ont cru à M. Trump que l'élection était une fraude. Et certains gens sont candidats dans l'élection dans quelques jours. Il y a une élection pour les députés et les sénateurs. Et ils disent... Moi, je dois gagner. Si je ne gagne pas, je refuse l'élection. Donc, c'est une crise ici pour la démocratie.
Selon les enquêtes d'opinion les plus récentes, l'opposition républicaine a de très grandes chances de s'emparer de la Chambre. Quelles seraient les raisons à cela?
Tout le monde croit qu'ils vont gagner. Ils vont essayer de faire des projets de loi sur les élections, mais je ne crois pas qu'ils vont réussir parce que les démocrates vont contrôler le Sénat. Ils peuvent empêcher n'importe quel projet de loi antidémocratique.
Par rapport au problème économique, pensez-vous que les électeurs comprennent cet enjeu?
Selon les sondages, les gens qui vont voter mardi prochain croient que le plus important problème maintenant, c'est l'économie. Parce qu'il y a un taux d'inflation de 8% qui est très important. On n'a pas vu ça depuis 20 ans. Et c'est-à-dire pour acheter des choses à manger, ça devient de plus en plus difficile pour les Américains. Une augmentation dans un an de 8%, c'est beaucoup. Donc, selon tous les sondages, la question économique est la plus importante pour l'élection de mardi prochain.
Dans son discours dans l'État d'Arizona, l'ancien président Barack Obama a invité la population à sortir pour voter. Pensez-vous que les gens peuvent décider de ne pas aller voter? Quelles seraient les motivations à cette absence des électeurs dans les bureaux de vote?
Oui, il y a toujours des gens qui ne votent pas. Ils ne voient pas de différence entre démocrates et républicains. Donc Obama dit, si vous ne voulez pas que Trump revienne au pouvoir, il faut aller voter massivement.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Lionel Lunanilagahima a assuré la mise en onde. Merci également à l'équipe de rédaction. Au micro, Eric Manirakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, sur votre site voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.